voilà pour ce rendez-vous hebdomadaire avec les carnets de Comaguerre, avec l'équipe de Comaguerre qui est là aujourd'hui au complet. Roselyne, que je salue, sous son casque. Ce n'est pas un casque lourd, rassurez-vous, elle ne s'est pas engagée.
Non.
Elle s'est engagée chez Comaguerre et c'est très, très lourd à porter.
Oui, absolument.
Psychologiquement, politiquement, parce qu'on se sent un petit peu seul.
Hein. Mais seul,
on
n'est pas.
En fait, on
et
n'est
puis
pas.
On en a marre de tous
voilà,
ces morts.
On en a marre de tous ces mensonges, de toute cette violence, de toute cette haine guerrière.
Bon, bonjour à tout le monde.
Voilà. Bonjour Roselyne. Et bonjour Habib.
Bonjour, oui.
Voilà, qui arrive avec aussi dans sa tête, vous imaginez, tout son passé syrien. Il n'a pas vécu très longtemps en Syrie, mais il y est beaucoup allé. Il y connaît tous les gens qui se préoccupent d'éviter que les gens souffrent en Syrie. Ils n'ont pas arrêté de souffrir. Puisque la Syrie, depuis le début, je le rappelle, il faut le dire et le redire parce qu'on l'oublie trop, depuis 1947, la Syrie a soutenu, sans jamais changer de ligne, la Palestine. La Syrie a voté contre à l'Assemblée générale de l'ONU de novembre 1947, qui a découpé le territoire en faveur des sionistes, en défaveur des Palestiniens. Elle n'a jamais changé de position. Et ça... c'est ce que son président est en train de payer. Alors, il ne l'a pas payé de sa vie, on va y revenir tout à l'heure, mais c'est ce qu'elle paye. Elle paye son engagement ferme, résolu, intouchable pour les Palestiniens. Ce qui n'a pas été le cas de beaucoup d'autres. On y reviendra. Voilà, donc nous sommes là pour faire face à cette première semaine. Il reste 40 jours de folie en perspective. J'insiste sur le terme. Avant le 20 janvier 2025, l'équipe Biden est aux commandes, elle reste aux commandes, elle est active. Alors je considère que Netanyahou fait partie de l'équipe Biden, il est un des agents de l'équipe Biden, un des plus meurtriers, mais un des agents d'eux, il n'est pas le seul, il y en a d'autres, il y a le nouveau président argentin, il y en a ici et là, tout. On les connaît, on les a bien situés. Donc cette équipe est là, elle est déchaînée, elle veut absolument régler un certain nombre de comptes avant son départ, et je vais le développer dans le cours de l'émission, puis je le redévelopperai demain. L'équipe Biden, maintenant, parce qu'on la voit fonctionner, on voit ses modes d'intervention, est en train de s'en prendre directement aux BRICS, car tout sera fait jusqu'au 20 janvier pour que les BRICS éclatent, ou au moins ne s'entendent plus entre eux, ou n'arrivent pas à faire des choses en commun, ou bien partent par petits morceaux, c'est-à-dire si jamais un des cinq fondateurs ou un des cinq nouveaux venait à défaillir, ce serait un succès donc, de l'alliance américano-sioniste, de l'alliance impériale. C'est bien ça. Ils se sont pas trompés. L'adversaire potentiel, mais qui n'était pas encore opérationnel, c'est un adversaire BRICS, c'est clair, l'adversaire de leur domination. Ce n'est pas une domination alternative, c'est des gens qui s'opposent à leur domination. Donc il faut que cet outil qui est en cours d'élaboration, qui est relativement jeune, dont les modes de travail ne sont pas encore bien réglés, ça a été dit et redit et tout, il faut que cet outil explose. C'est tout à fait clair. C'est tout à fait clair. Et donc, ils feront tout jusqu'au 20 janvier. Et je pense que là-dessus, la politique de Trump ne sera pas différente du tout. C'est un adversaire potentiel qu'il faut casser avant qu'il soit trop grand. Alors, on peut dire... Alors, les gens qui sont optimistes disent « Regardez, c'est un peu comme dans Rabelais, la naissance de Gargantua. Ce beau bébé qu'est les BRICS, il promet. Alors, quand il va être adulte, vous allez voir... attachez vos ceintures. » Mais le problème, c'est encore un gros bébé. C'est encore un gros bébé. Hein? Puisque même dans les cinq fondateurs, tout le monde n'est pas aussi solide. L'Afrique du Sud, c'est pas très, très solide. C'est d'abord pas très peuplé. C'est riche économiquement, industriellement. C'est pas très, très peuplé. Et vous verrez, quand je vous parlerai tout à l'heure du Mozambique, que l'Afrique du Sud, elle est cernée de très, très près. Le Brésil est très fragile. Le Brésil est très fragile. Et il est cerné maintenant par le Sud, par Milley, qui est un fou furieux. Il a des positions assez ambiguës parce qu'il a les intérêts des États-Unis sont pressants. Donc on n'a pas affaire qu'à, on n'a pas affaire à cinq puissances déterminées sur les mêmes orientations. Les rapports entre l'Inde et la Chine se sont un peu améliorée, tant mieux, mais on n'a pas affaire aux deux mêmes civilisations, on n'a pas affaire aux deux mêmes pouvoirs. Donc il faut bien comprendre que cet ensemble-là, ce beau bébé qui est très prometteur et qui pouvait faire envie, si on le regardait sortir de son berceau, faire ses premiers pas et tout, et dire, ah, les choses vont changer. Il n'est pas encore adulte. Il n'est pas encore adulte. Et c'est ça que les États-Unis ne veulent pas, qu'il y ait un vrai adulte conscient de ses valeurs, conscient de l'avenir de l'humanité, ce qui n'est pas le problème des États-Unis. Le problème des États-Unis, c'est de rester les patrons, c'est tout. Le reste de l'avenir de l'humanité ne les intéresse pas particulièrement. C'est ça qui est en jeu. Mais c'est en jeu, mais il faut bien voir que dans une vie d'homme, ce genre de choses prend des décennies à se mettre en place. Ce n'est pas comme ça du jour au lendemain. Bon. Donc c'est là-dedans que nous sommes. Avec des jours de cafard, des jours de tristesse, on en a vécu ces derniers temps, il faut bien que nous habituions même mentalement dans nos têtes à passer ce genre de période avec un certain nombre de boussoles simples, c'est-à-dire vouloir le bien de tout le monde, vouloir la santé de tout le monde, vouloir que tout le monde soit nourri et que tout le monde soit respecté pour ce qu'il pense et ce qu'il est. C'est déjà beaucoup. C'est un programme de rien du tout que je dis en deux phrases, mais quel travail, j'allais dire. Quel travail pour... je mets même dans le milliard des riches, comme on les appelle dans le sud global, dans le milliard des riches, il y a aussi des gens très très malheureux dans le milliard des riches. Donc, vous le savez, on les voit couchés le long des trottoirs chez nous, arrivés dans un état catastrophique, dans les urgences, dans les hôpitaux et tout. Ils sont aussi dans le pays du milliard des riches. Ils ne font pas partie des riches, ils font partie des souffrances qui ont lieu aussi sur ce territoire. Bien. Alors, j'en suis là de mes réflexions globales. On va commencer à prendre les choses peut-être dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire que nous étions en fin de semaine dernière, et quand on s'est vu à la radio, enfin quand on s'est entendu la semaine dernière, l'avancée donc, des djihadistes vers le sud de la Syrie a été très très rapide. Les combats qu'on nous annonçait, on n'en savait pas trop l'issue, enfin il y avait une espèce de flou, on se bat pas, il y a des bombardements de l'aviation russe et tout. C'était pas très très clair, et il faut savoir qu'on est de toute façon dans une période où la propagande de guerre atteint son intensité maximale, c'est-à-dire que la moindre information, même venant de quelqu'un ou d'un site qui d'habitude a l'air d'essayer de chercher la vérité, peut être travaillée, trafiquée, ou lui-même peut être influencé. Les influenceurs, ça existe, c'est un métier même qui est bien payé, et donc c'était assez difficile. Et en fait, ce qui s'est avéré au fil des jours, le 7 et surtout le 8 décembre, c'est qu'effectivement, les djihadistes étaient à Damas. C'était ça. Et ils étaient à Damas pourquoi ? Alors là, je refais devant vous la liste des derniers assassinats de l'Empire. Le général Soleimani à Bagdad,
ouais.
Une opération de Trump, premier mandat. Soleimani, qui était le porteur de la lutte d'indépendance et d'autonomie de toute cette région-là du monde. Ensuite, on a eu Hassan Nasrallah. Ensuite, on avait eu juste avant Ismail Haniyeh, à Téhéran même, assassiné dans un local diplomatique. Pourquoi pas ? Et enfin, on a eu Yahya Sinwar. Ça, c'était à Gaza, on l'a su aussi. Et donc, Netanyahou lui-même l'avait dit. La veille de du fameux cessez-le-feu bricolé à la Maison-Blanche au Liban, Netanyahou avait dit « Gare à toi, Bachar el-Assad. Gare à toi, Bachar el-Assad. » Ça veut dire qu'il était sur la liste des gens à tuer. Il le savait. Heureusement, il avait compris. Et donc, c'est ça qui allait se passer le 8, dès l'arrivée des leaders takfiristes djihadistes à Damas. Bachar el-Assad et les services de renseignement syriens étaient suffisamment aguerris à ce genre d'agitation. Ils avaient regardé tout ce qui s'était passé. Ils avaient assisté donc au meurtre, enfin assisté en direct au meurtre de Nasrallah, à tous les autres. Donc le président syrien est parti. Alors est-ce qu'il est parti ce jour-là ou est-ce qu'il était parti la veille ? On le saura plus tard. De toute façon, il a eu raison de partir parce qu'autrement, aujourd'hui, il serait mort. Bon. Et donc les autres auraient sauté de joie. Alors, s'il est vivant, ça pose problème. Qu'est-ce qu'on fait avec ce vivant ? Alors, ça a été confirmé, non pas par des journalistes, c'est le ministère des Affaires étrangères russe qui a confirmé qu'il était à Moscou.
À Moscou, hein.
Bon, donc ça c'est bien, il est vivant. Il a même été précisé, là ça nous amène à reparler du rôle de la Russie, on va y venir, il a même été précisé qu'il n'était pas prévu qu'il rencontre le président Poutine. Et voilà, c'est comme ça. Il est un exilé, il a eu l'asile politique, bon, il est logé, nourri, chauffé, et puis c'est tout. Et il n'a peut-être pas envie de rencontrer Poutine, qu'il connaît par ailleurs, mais il s'est rencontré plusieurs fois, c'est peut-être pas le moment. Bon, ça on verra. Mais donc, partons du fait qu'il est vivant, c'est confirmé donc, par le ministère des Affaires étrangères. Poutine a dit lui-même, c'est assez étonnant, c'est Poutine lui-même qui lui a donné le droit d'asile. Le droit, c'est dans un texte, on ne donne pas l'asile comme ça à la tête du client. Bon, il est là, il est sauvé. Il est sauvé, et ça veut dire qu'il est une partie de la mémoire du peuple syrien qui n'a pas été éradiquée. Car tout le reste, et il faut y revenir dans les jours qui ont suivi le 8, donc le 9, le 10, aujourd'hui, tout le travail, surtout de l'armée israélienne, je vais insister là-dessus, tout le travail consiste à effacer les traces du régime syrien et à effacer sa mémoire. Tout a été... Alors hier, il y a eu près de 400 vols de l'armée israélienne sur la Syrie, donc des bombardements toutes les 5 minutes, pour tout détruire ce qui est l'appareil d'État, les ministères, les casernes, les centres de documentation, les bibliothèques et tout. Il faut qu'il ne reste aucune trace. La Syrie, allez regarder faire, la Syrie n'aurait jamais existé. Le problème, c'est que vous existez depuis presque rien, les sionistes. La Syrie existe là depuis 3000 ans. Alors vous pouvez toujours vous acharner, vous n'enlèverez pas la mémoire de la Syrie aux Syriens. C'est pas possible. Et à tous les gens des alentours. La Syrie fait partie de l'histoire de l'humanité. Elle fait partie de l'histoire des trois religions monothéistes. Elle fait partie de l'histoire de Jérusalem et tout. Elle fait partie de ceux où s'est écrit la Bible de l'Ancien Testament. Donc, vous pouvez toujours essayer, avec votre hargne, vos bombardiers, votre suffisance, vous n'y parviendrez pas. Ce qui veut dire qu'à long terme, c'est vous qui perdez, comme étant un accident de l'histoire. Mais hélas, on n'en est pas là aujourd'hui. C'est ce que je présente. Donc, le 8, Bachar est parti. Peut-être la veille, on ne sait pas. Ça n'a pas d'importance, il est parti, il est sauvé. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain ? Alors, on va vous essayer de vous dire, parce qu'on arrive quand même à avoir quelques entretiens téléphoniques directement avec la Syrie. Je ne vous dis pas comment et pourquoi, mais voilà. Prenez-le comme un acquis et pour une vérité que vous assène comme à guerre. On arrive à savoir que pratiquement l'armée syrienne, non pas ne s'est pas débandée, a décidé de ne pas se battre parce qu'elle a trouvé en face d'elle, et j'explique bien, elle a trouvé en face d'elle les fameux djihadistes, etc., libérateurs, entre guillemets, qui depuis plusieurs années, depuis en gros 4 ans, à Idlib, sous la protection de l'armée turque, avec la frontière ouverte avec la Turquie qui permettait de passer des armes, des médicaments, d'aller en formation, etc., s'est hissé à un niveau de technique militaire qui est celui de la guerre en cours en Ukraine. Il y avait aussi des Ukrainiens là, à Idlib, des instructeurs ukrainiens. Donc les quelques milliers de combattants des djihadistes sont aujourd'hui à un niveau où se passe la guerre en Ukraine. Et à cette échelle-là, avec cette unité de mesure, l'armée syrienne, telle qu'elle était, ne pouvait pas se battre. Elle aurait été liquidée homme par homme, un par un. Il ne resterait rien. Donc ils ont pris la sage décision, et je pense que le président leur a donné le conseil de le faire, de disparaître dans la nature. Donc une information que je vous donne, écoutez bien, les soldats de l'armée arabe syrienne, puis c'était son titre, sont en civil, ils sont dans leur village, ils sont où ils peuvent, mais ils ne sont pas sous un uniforme, ils sont devenus des Syriens ordinaires qui portent la mémoire de ces 2500 ans d'histoire avec eux. Eux, leur famille, leurs enfants. C'est ça la donnée importante et qu'on ne vous expliquera pas.
Vont-ils obtenir le droit d'asile en France ?
Alors, c'est très intéressant, parce que tu poses la bonne question. Il est sorti aujourd'hui une information selon laquelle il y a déjà une dizaine de pays de l'Union européenne, mais pas la France, qui leur ont refusé le droit d'asile.
Ouais.
Ça veut dire, ah, vous êtes Syrien, ben restez-y, puis vous verrez bien ce qui va vous arriver si on vient vous couper la gorge et tout. Alors en fait, aujourd'hui, j'ai vérifié ça tout à l'heure, effectivement, la France n'est pas dans la liste. Mais il y a l'Allemagne, il y a la Grande-Bretagne, il y a tous les pays scandinaves, ben, ceux qu'on attendait sans surprise.
L'Allemagne a proposé 1 000 euros à ceux qui veulent repartir,
voilà,
regagner là-bas.
Voilà. Rentrez chez vous, chez vous, allez voir comment on est bien avec les djihadistes au pouvoir.
Voilà, exactement. Voilà.
Alors, on est tellement bien d'ailleurs que ces djihadistes sont tellement propres sur eux. Alors, on en arrive à des moments absolument ahurissants. Vous avez droit à quasiment une heure sur CNN. CNN, c'est la grande chaîne d'information, entre guillemets, le mot information, des États-Unis, où une dame, une femme, avec un très léger voile, c'est très très discret, interviewe le leader des djihadistes, donc le fameux Al-Jolani, qui ne s'appelle pas Al-Jolani, d'ailleurs il a un autre nom.
Mohammed,
son vrai nom, c'est Mohammed Al-Ara, ou quelque chose comme ça. Ouais. Bon. Alors, très propre, la barbe magnifiquement taillée, les cheveux bien coupés, bien droits, dans une tenue bien nette et tout. Ce monsieur est blanchi, c'est un produit vendable. Et on fait comme si, parce que ça n'a pas été enlevé, il a quand même sur le dos, comme on dit, une amende pour sa capture de 10 millions de dollars. Ouais. Il est considéré comme une personne dangereuse. Mais non, ça c'est... CNN est passé par là, et donc on vous a lavé le cerveau avec les images de CNN. Voilà un monsieur bien sous tout rapport, qui promet de faire de mal à personne, etc. Voilà ce que c'est qu'on amène au pouvoir. Et il y a une complicité énorme, puisque tous les drapeaux, alors regardez, tous les drapeaux officiels de la République syrienne sont modifiés, et on prend le drapeau à 3 étoiles. Alors je rappelle, pour ceux qui n'avaient pas fait attention à ce qui n'est pas un détail, que le drapeau de la République arabe syrienne, c'est un drapeau avec les couleurs, vous les connaissez.
L'ancien ambassadeur de France, actuellement, ils ont mis le drapeau, ils ont brandi le drapeau 3 étoiles.
Ouais. Voilà. Hein? Donc le drapeau officiel, c'était le drapeau à 2 étoiles. Le drapeau à 3 étoiles, c'est, si ma mémoire ne me trompe pas, un drapeau qui a été fabriqué au moment du mandat français.
Français, hein, exactement.
Pour montrer qu'il y avait des bons Syriens qui voulaient les 3 étoiles et que les autres, c'était des mauvais Syriens.
Mais il y a aussi les couleurs qui changent. Le drapeau à 2 étoiles, et, il est noir, blanc,
il y est plus
rouge.
Le rouge.
Ah, le rouge, il n'y est plus. Moi, j'ai pas fait la différence. J'ai regardé que les étoiles.
La bande noire.
D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est des petits détails, mais il faut savoir que, par exemple, toutes les ambassades de Syrie à l'étranger, à commencer par celle de Moscou, on a vu des images hier, ont tout de suite affiché le drapeau à 3 étoiles. C'est réglé, on n'en parle plus. Il ne s'est rien passé, quasiment. C'est un petit détail. Une étoile de plus, une étoile de moins. Qu'est-ce que c'est ? Bon, c'est très, très révélateur de ce qui est en train de se passer. Et de la position de la Russie, entre autres, sur laquelle on va un petit peu revenir. Donc, la journée du 8, c'est ça qui se passe. Le régime syrien, comme on dit, s'effondre. Et on nous annonce que ce brave homme, tout propre, tout droit sorti de CNN, avec sa barbe bien taillée, est un homme très très bien, qui dit qu'il ne va pas faire de massacre, rien du tout. Il se présente comme quelqu'un de très très civilisé. Le problème, c'est qu'on sait d'où il vient, et qu'il y a quand même, je vous dis, une amende de 10 millions de dollars pour sa capture, que probablement on va oublier de mettre en application. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il ne se passe pas que ça sur le territoire syrien. Il se passe beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et en particulier, alors il y a effectivement d'une part une espèce de tentative des Kurdes syriens qui sont installés donc à nord-est du territoire, de créer sur le territoire de la Syrie un État kurde. Alors pourquoi ils ont cette envie-là ? Ben, ils ont cette envie qu'on peut comprendre, parce que c'est un vieux désir, puisque comme les Kurdes n'ont pas l'espoir... Tant qu'il y aura un pouvoir néo-ottoman dur, tant qu'il y aura Erdogan, et pas que Erdogan, à mon avis, les suivants aussi, qui ne voudront pas que les Turcs existent en Turquie, ben c'est bien de ça qu'il s'agit, les Kurdes qui veulent être représentés essaieront de trouver un endroit où faire un État. Alors un petit État, mais encore que un petit État, réfléchissez, enfin vous ne savez pas, à l'endroit où il est placé sur la carte de la Syrie actuelle, il est à un endroit très très intéressant. Parce que c'est un endroit où il y a du pétrole, c'est un endroit où il y a des terres à blé, hein, Et donc, pétrole qui appartient à la Syrie, terre à blé qui appartient à la Syrie. Et donc, en fait, un petit État kurde aurait de quoi vivre, hein, au détriment des autres Syriens, bien entendu. Enfin, c'est un peu le problème entre la Turquie et l'État kurde. Et il faut savoir que cet État kurde, jusqu'à présent, il est appuyé par les États-Unis d'Amérique. Puisque dans la zone de ce futur État kurde, si un jour il y a un futur État kurde, c'est là que sont installés les... On est autour de 5000 hommes de l'armée des États-Unis, avec tout l'équipement, bien entendu, nécessaire, qui les ont aidés à se former. Alors, est-ce que, je le dis avec un peu de tristesse, une nouvelle fois, les Kurdes auront été promenés par le bout du nez et on leur dira... c'est pas pour toi, c'est pas pour toi qu'on l'a fait, et tu nous embêtes, mais à la limite, tu nous gênes. Je pense que c'est ça. Ou bien, deuxième hypothèse que j'exclus pas non plus, il y aurait un État kurde qui ressemblerait au Kurdistan irakien. Alors, il existe, ça va être de fait une province de l'Irak, qui est dans la carte, c'est en Irak, mais qu'on appelle le Kurdistan irakien, avec la capitale à Erbil. Bon. À la tête de cette province semi-autonome, de fait, dans l'Irak actuel, il y a des Kurdes. Mais il y a des Kurdes qui sont des voyous. Ça existe aussi dans tous les pays. Il y a des voyous en France, il y a des voyous aux États-Unis. Bon, là, c'est des voyous kurdes. Et alors, il faut savoir que, en disant, alors la religion est derrière, mais il faut savoir que là, ça ne compte pas du tout. C'est-à-dire que Erbil est l'endroit d'Irak, est probablement l'endroit du Moyen-Orient actuel, où il y a le plus de femmes à poil dans les cabarets. Alors, arrêtons de rire. Mais non, c'est ça. Et champagne à gogo, et whisky, etc. Enfin, alors, des Kurdes comme ça, bon, j'ai aucune affinité avec eux. Ils ne sont pas intéressants. Alors, je pense que, et c'est vrai, il y a des Kurdes sincères qui voudraient bien avoir un État. On les comprend. Mais avec ce genre d'oiseaux dans la population kurde, je ne sais pas trop où est-ce qu'ils vont aller. Puis ce genre d'oiseaux-là, c'est eux qui vont être, effectivement, qui sont déjà protégés et sélectionnés par l'Occident, puisque de toute façon, c'est là qu'il y a le pétrole. Et donc, c'est eux qu'on protège, quelles que soient leurs mœurs. Bon, mais au règne des voyous, les voyous sont rois, et puis voilà.
Il faut voir maintenant la position d'Erdogan vis-à-vis de l'Amérique, pour
bien
surtout
sûr.
Ces Kurdes qui veulent avoir un pays indépendant.
Bien voilà. Sûr, parce que Erdogan va dire, ben, s'ils sont là, ils ne sont pas chez moi, ça me laisse tranquille, mais si les États-Unis disent, non, là, ils dérangent, il n'y a pas besoin d'un État turc, ça va. Bon, ben, Erdogan, il fera avec. Alors Erdogan, un beau jour, enfin, il faudra bien que le problème kurde se règle là où il se pose vraiment, c'est en Turquie. La grande majorité des Kurdes existants aujourd'hui habitent la Turquie, l'est de la Turquie. Le problème, c'est que la politique d'Erdogan, et donc il y a la politique de son parti, et la politique des frères musulmans, ça consiste à dire que ces gens-là doivent disparaître en tant que culture. C'est ce qu'on appelle un ethnocide. Un ethnocide, ça veut dire quoi ? Alors on sait déjà ce que c'est parce que ça a eu lieu une fois, il y a un antécédent dans l'histoire du XXe siècle, ça a eu lieu une fois en Corée. En 1910, le Japon impérial, fascisant, a envahi la Corée. Et à partir du moment où il a envahi la Corée, ça a duré donc jusqu'en 1945, il a été interdit de parler la langue coréenne. On a été obligé de changer son nom pour qu'il n'ait pas une consonance coréenne, donc changer son nom avec une consonance japonaise. Toute expression en coréenne était punie de prison. C'est ça un ethnocide, c'est-à-dire vous êtes vivant à condition que vous vidiez votre cerveau de votre culture, de votre passé, de vos ancêtres, etc. C'est ça un ethnocide. Alors c'est pas aussi saignant, j'allais dire, que le génocide où là tu es mort. Hein. L'ethnocide, c'est ton cerveau est mort. En tant qu'être physique, tu es vivant, mais ton cerveau est mort, ton cerveau n'a plus de racines, ton cerveau a été nettoyé de tout ce qui t'a construit jusqu'à ton âge adulte. Alors c'est facile sur les bébés, on leur parle qu'en japonais, ils parlent japonais. Si tu as 40 ans, 50 ans, c'est pareil. Et si jamais tu proposes, tu parles à ton voisin ou à ta sœur en coréen, on te fait espionner et tu vas aller en prison. C'est ça un ethnocide. C'est exactement ça que le projet d'Erdogan dans le Kurdistan turc, qui est le gros du Kurdistan, dans la région de Diyarbakir et tout, où il y a la fameuse base militaire de l'OTAN. C'est ça le projet. Bon. Donc que des Kurdes sincères, honnêtes, démocrates disent on ne peut pas vivre en Turquie avec un régime pareil, si on leur dit là il y avait un espoir de faire quelque chose sur un morceau du territoire syrien, qu'en plus c'est l'armée américaine qui leur dit, ben, je comprends qu'ils saisissent cette balle au bon. Et je verse une larme à l'avance en disant, de toute façon, vous ne pèserez pas lourd dans la décision. On verra.
Vous savez qu'actuellement, Giuliani, il s'est dirigé avec pas mal de gens armés pour lutter contre le Khazan.
Tout à fait, ouais. Tout à fait. Voilà, ouais. Voilà, parce qu'effectivement, les gens qui ont été armés, formés par la Turquie, donc les djihadistes, pour faire simple, ils savent bien que c'est une gêne pour le projet sioniste américain. Et donc, effectivement, ils vont y aller pour essayer de leur régler leur compte. S'ils n'y vont pas, eux, enfin, je pense que c'est eux qui vont y aller en premier, puis ça les occupera, c'est l'armée israélienne qui fera le boulot. Mais l'armée israélienne...
Actuellement, le Khazan, ils ont mis le drapeau à 2 étoiles.
Voilà, donc voilà, donc ils se mettent dans une mauvaise position, ouais, ouais. Ils prennent des risques. Alors ça c'est pour le Nord, il faut savoir que l'armée syrienne libre, comme appelé, elle a déjà franchi l'Euphrate, elle a déjà franchi nettement l'Euphrate, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si jamais il y avait un reste de gouvernement syrien un peu indépendant, il n'aurait plus d'eau. L'Euphrate est entre les mains de l'armée syrienne libre. Bon. Ouais. De la même façon, je vais parler de l'eau tout de suite après, les sources du Jourdain sont maintenant contrôlées totalement par Israël.
Par Israël. Ouais.
Et on en arrive au dernier protagoniste de l'affaire, ouais. Israël. Israël, donc, dès... Alors, je crois que c'est le 8 au soir que Netanyahou était sur la frontière au Golan, ouais. Et puis Israël a progressé. Israël, pendant toute la journée d'hier, donc 9 décembre, a bombardé tout ce qui reste de l'État syrien, de l'État et de l'armée syrienne en particulier, sa flotte dans le port de Tartous, toutes ses casernes, etc. Il ne reste rien de l'appareil militaire syrien en 24 heures. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'opposition, il n'y a personne en face, il n'y a pas de combat. Hein. Donc l'armée de l'air israélienne a fait près de 400 sorties dans la seule journée d'hier. Ça veut dire des avions qui volent sans arrêt. Apparemment, ils ont du pétrole. Parce qu'il faut quand même mettre du pétrole dans ces petits jouets qui tuent. D'où vient le pétrole ? Un petit mot au passage. Vous savez que du temps de ce cher Obama, prix Nobel de la paix, il s'est ouvert, je le dis comme ça, prix Nobel de la paix, sur sa bonne mine, puisqu'il n'avait rien fait, il était déjà prix Nobel de la paix. Bon, il s'est ouvert un fameux pipeline, donc un pipeline de pétrole, donc, qui s'appelle le BTC. Alors qu'est-ce que ça veut dire BTC ? Ça veut dire Bakou, Tbilissi, Sihan. C'est un oléoduc qui part d'Azerbaïdjan, où vous le savez, il y a du pétrole, et historiquement, c'est un des endroits du monde où on sait qu'il y en a depuis très très longtemps. Il traverse la Géorgie, et ensuite il descend en Turquie pour aboutir au port de Sihan, qui est à peine à l'ouest de la frontière syrienne, à côté de ce qu'on appelle Iskenderun, hein, ce qui était l'ancien Sanjak. Ouais. Donc un morceau de la Turquie actuelle qui a été donné à la Turquie de Mustafa Kemal, par la République française, ouais. Hein, où habitent non pas des Turcs, mais des Arabes. Hein. C'est des Syriens qui habitent là. En fait.
Exactement. Ouais,
bon. Donc ce fameux BTC, donc, où coule le pétrole azéri à travers donc, la Géorgie et la partie donc, orientale de la Turquie, et qui arrive en mer, donc, dans ce coin au fond, en haut à droite de la Méditerranée orientale, alimente en permanence les raffineries israéliennes, en particulier celle d'Haïfa. Donc il y a effectivement il y a un lien très très direct entre tous ces pays et Israël. Bon, ça c'était au passage pour montrer comment l'armée israélienne arrive à mettre tant d'avions dehors toute la journée et n'a pas de problème de carburant. Ben, le problème de carburant, il est réglé comme ça.
Oui. Mais ils ont tiré sur qui, les Israéliens, hier ?
Ils n'ont pas visé des hommes, ils ont visé des installations.
D'accord.
Tout, des casernes, des dépôts de munitions, des centres de renseignement, des batteries anti-aériennes, enfin tout ce qui était cassable de militaires, ils l'ont cassé.
Parce que bon, leurs avions, ils n'arrivaient pas à, si vous voulez, ils bombardaient du Liban.
Oui, oui,
et
tout à fait.
Ils n'arrivent pas à rentrer à l'intérieur parce qu'il y a une défense aérienne, voilà, très puissante.
Voilà. Donc, il s'agit de ça. Il ne s'agit donc pas de faire un spectacle à la Beyrouth où on dit on casse des bâtiments ou à la Gaza, plein de trous. Non, on casse tout ce qui reste de train d'un État syrien. Il ne faut plus qu'il y ait un État syrien. Il faut qu'il y ait des Syriens livrés à eux-mêmes, sans État, sans administration.
Plus rien, faible. Un État faible, comme certains États actuellement au Moyen-Orient.
Voilà. Parce qu'il y aura peut-être un État après, mais un État extrêmement faible, avec zéro moyen, et surtout zéro moyen militaire. C'est-à-dire un État dont on fera ce qu'on voudra et qui vivra de fait de mendicité. Si on lui a pris son pétrole, ses terres à blé, il vivra de mendicité. C'est tout à fait clair. Donc il sera tranquille, parce que ce sera la survie. On mange et on est vivant, c'est tout. Voilà. C'est ça le futur.
On affaiblit d'abord la Syrie, puis après ça vient autour des autres. C'est-à-dire l'Irak, la Jordanie... le Liban, il est affaibli comme la Syrie actuellement.
Tout à fait.
Donc on va créer, même l'Égypte, on va affaiblir tous les pays arabes, ça tout c'est sûr.
Alors ça renvoie, tu fais bien de le rappeler, parce qu'il y a eu, j'ai plus la date exacte, mais un certain commandant, ce qu'on appelle le CENTCOM. Le CENTCOM, donc c'est le commandement américain pour la zone centrale, ce qu'ils appellent la zone centrale, c'est-à-dire Europe, Proche-Orient, qui s'appelait Wesley Clark. Et qui un jour, on était dans les tout débuts du mandat de George Bush, avant le 11 septembre même, qui a dit, ben voilà qui a éliminé. Et il a fait la liste, et dans cette liste, il y a effectivement la Libye, il y a l'Irak, il y a la Jordanie, et il y a la Syrie, c'est tout. Elle était déjà, en 2001, sur la liste des pays qu'il fallait supprimer, détruire. Bon. Donc elle a tardé, elle a résisté par tous les moyens, ça lui a coûté cher, elle a résisté, mais ça y est, elle était sur la liste, elle est tombée. Et ça, c'est un succès de la diplomatie, si on peut appeler ça la diplomatie, des États-Unis. Il faut savoir que le prix a été extrêmement élevé, car depuis que Wesley Clark avait fait cette liste, tous les autres sont tombés, ça fait au moins 10 ans, je pense à la Libye et tout, la Syrie tenait toujours. Mais la Syrie s'est vue donc assommée à coups d'interdits, d'incertitudes, d'embargo, le comble étant atteint donc en 2011, non, 2000, oui, je crois, avec l'embargo César, où pratiquement la Syrie est aussi en difficulté économique d'approvisionnement que les Cubains depuis 50 ans. C'est pareil. Hein, c'est le même type d'embargo. Alors, on ne l'a pas dit, on a chargé Bachar el-Assad de tous les maux, mais la vie était difficile en Syrie, parce que l'Occident a tout fait pour que la Syrie étouffe. Alors maintenant qu'on mette ça sur le dos du président, c'est assez facile. Hein, c'est-à-dire, le président a suffoqué. Oui, mais celui qui l'a étranglé, il ne s'est pas étranglé tout seul. Hein, il a été étranglé. Et il a résisté plus qu'on pouvait imaginer qu'il le puce. Et il a résisté.
Mais ce que je ne comprends pas, c'est que la Syrie était la base de la résistance.
Ouais.
Et elle faisait partie du croissant vert.
Tout à fait.
Il y avait l'Iran, l'Irak, la Syrie, le Liban et le Yémen.
Voilà.
Donc ça, bon...
C'est ce qu'on a appelé l'arc chiite à l'époque. Alors cet arc chiite, on a mis sur la religion une responsabilité politique immédiate qui n'a pas de lien direct à la religion, mais de fait, effectivement, tous les opposants à Israël étaient dans les pays où le chiisme était dominant. Il pouvait être unique dans certains cas. Ce n'était pas le cas en Syrie, mais il était majoritaire, comme il est majoritaire en Irak. Et donc ces pays-là étaient voués à disparaître, puisqu'ils sont tous, ils portaient tous une résistance à l'occupation sioniste qui avait l'appui des monarchies sunnites et des ismaéliens et de quelques autres. Il faut bien voir ça. Donc il y a l'Occident, enfin les États-Unis, ont utilisé habilement des différences religieuses qu'ils ont transformées en différences politiques pour opposer deux courants de l'islam. Il y en a d'autres, il y a beaucoup de courants de l'islam. Je ne fais pas une histoire de l'islam aujourd'hui, parce qu'il y a un islam indonésien, il y a un islam pakistanais et tout. Mais là, dans le monde moyen-oriental, il y avait ces deux courants-là, un peu des ismaéliens, et puis des drôles de gens qui se disent musulmans comme les druzes, mais on ne sait pas trop qui ils sont, qui sont une espèce de secte refermée sur elle-même, on ne sait pas trop. Bon. Mais donc ça a été utilisé pour diviser le Moyen-Orient. Et donc comme les chiites, enfin, les pays à dominante chiite étaient opposés à l'État sioniste et pro-palestinien, il fallait que ce soit eux qui gagnent ou qui perdent.
Bernard,
oui, je t'écoute.
Il y a un truc aussi On a bombardé, comme tu as dit, il y a eu l'aviation
israélienne
400.
Elle a tout cassé.
Mais pourquoi il n'y a pas des sites iraniens? On n'a pas cassé les sites iraniens. Qu'est-ce qui se passe?
Alors voilà.
Est-ce qu'il y avait des sites iraniennes ou pas? Là alors, aussi.
On ne sait pas, effectivement. Ouais. Si, il y avait, on disait, et c'est probable qu'il y avait des gens, des gardiens de la Révolution et des endroits où en Syrie, il y avait une implantation, il y avait des combattants iraniens qui n'étaient pas l'armée officielle, mais qui étaient ce qu'on appelle le corps des gardiens de la Révolution. Ouais. Bon. Alors eux, effectivement, ils devaient être dans la cible. On n'a pas parlé d'eux. Alors est-ce qu'ils se sont retirés? Est-ce que l'Iran s'est senti trop faible et trop isolé pour l'instant? Parce que quand... moi, j'aurais été en Iran, j'aurais vu la façon dont la Russie fonctionnait. Je me serais dit, on travaille ensemble. Mais en fait, au fond, c'est chacun pour soi. Et chacun pour soi, c'est moi tout seul Iran, avec... toute l'armée américaine, les sionistes, et que c'est tout ce qui va avec, et tout l'OTAN sur le dos.
L'Occident, l'OTAN, oui.
Est-ce qu'ils se sont dit, on va revoir la question tranquillement, on va faire le compte de nos capacités, et on va revoir dans quelques jours. Mais ils ne sont pas lancés non plus à aller directement affronter les djihadistes, parce que ça aurait été un bain de sang, peut-être inutile et prématuré. Bon. Donc, moi, je la comprends assez, l'attitude de l'Iran pour l'instant, parce qu'ils se sentent encerclés, menacés, ça c'est très clair, ça a été dit, ça fait partie du discours sioniste depuis l'origine, donc il faut détruire l'Iran, il faut détruire l'Iran, vous l'avez entendu dire un certain nombre de fois. Ils se sentaient menacés par les États-Unis qui avaient annulé les accords pour le nucléaire, etc. Tout ça, on le sait, j'y reviens pas. Donc, pour l'instant, ils doivent dire, on réfléchit, on fait le point de la situation, on regarde comment ça se passe sur le terrain en Syrie, et puis on fait ce qui est nécessaire pour sauver notre peau. C'est la Syrie qui paye. Nous, on n'est pas morts, mais on est les prochains sur la liste. Les prochains, c'est nous. Hein, les prochains, c'est nous. C'est tout à fait clair.
Mais ils n'auraient pas déjà quitté la Syrie?
Peut-être, ils sont partis pour pas laisser des combattants morts sur le terrain.
C'est ce que j'ai dit. Ils devraient avoir des bases iraniennes. Certainement, je ne sais pas. Bon, pourquoi? Là, l'Israël a toujours attaqué la Syrie, accusé la Syrie en disant il y a des bases iraniennes.
Voilà.
Or, il n'en est rien. Enfin, jusqu'à présent, on n'en parle pas.
On n'en parle pas.
Voilà.
Alors, est-ce qu'elles y sont, mais qu'on n'ose pas y toucher encore? Ou est-ce qu'on laisse ça? Parce que si elles y sont, elles y sont dans des endroits où l'armée israélienne n'est pas encore arrivée. C'est ça le risque. Or, nos djihadistes, là, favoris de l'Occident, ne sont peut-être pas de taille à s'en prendre aux groupements.
Moi, tu vois, Berlin, je pense que ces djihadistes, pour le moment, ils sont là, on les met... ils vont...
Ah ben, leur avenir politique, à mon avis,
ouais,
est très, 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 très bref.
Ouais,
très,
ouais.
Très bref. Puisqu'on en arrive donc au dernier envahisseur, donc c'est Israël, qui donc est rentré,
Netanyahou
en tête, sur le territoire syrien, a avancé des chars, ils sont à Kuneitra, ils peuvent aller plus loin. D'après les informations dont je dispose à l'heure où je vous parle, les chars israéliens sont à 30 km de Damas.
Ouais.
Donc voilà, et ils peuvent aller plus loin. Et il faut savoir
Il est prévu un découpage. On ne sait pas, ça aussi.
Alors, il est prévu un découpage.
Un découpage de la Syrie.
Il y a des cartes qui circulent. Il y aurait une petite Syrie alaouite sur le bord de la mer. Il y aurait une Syrie druze. Il y aurait
les Kurdes.
Et puis un gros bout qui serait un gros bout israélien, sioniste et tout. Bon. Ça, c'est possible, mais enfin, ça, c'est pas joué. C'est les ambitions des uns et des autres qui s'expriment. Il n'y a que la violence militaire et les capacités militaires qui trancheront. C'est clair. Bon. Après, les Syriens qui sont vivants, même si... Alors, l'hypothèse a même circulé que le nom de la Syrie allait disparaître des cartes. Puisque s'il y a 3-4 États, chacun devra s'appeler d'un nom qu'on n'a pas encore eu. Et le nom de la Syrie pourrait disparaître. C'est-à-dire, on gommerait juste 3000 ans de l'histoire du monde. C'est un détail sur lequel on ne s'arrête pas. Bon, mais on n'en est pas là. C'est-à-dire, les rapports de force ne sont pas encore établis. Et on ne sait pas quelle est la capacité de résistance de tous ces gens qui ne se sont pas battus pour ne pas mourir. hein, de tous ces militaires de l'armée arabe syrienne, de tous ceux qui ont dit c'est pas le moment parce que là on est en situation d'infériorité.
On n'est pas versé du sang, quoi. Voilà. Voilà. Voilà.
Parce que pour ce qui est du sang, il y en a déjà eu beaucoup de versés.
Ouais, exactement. Bon. Ouais.
L'inquiétude qu'on peut avoir, on n'en a pas parlé, c'est par rapport à la situation des Palestiniens. Ouais. Bon. On sait maintenant, à peu près, il semble acquis, que le nord de la bande de Gaza est pratiquement vide de tout habitant gazaoui. Donc, ce qui va se passer probablement dans les semaines qui viennent, c'est l'installation à nouveau de colons israéliens sur le nord de la bande de Gaza. Comme premier signe de victoire.
Est-ce que les colons, ils vont s'installer ?
Alors, est-ce que les colons puissamment armés...
Parce que ça commence... Et ouais, ils ont commencé à... Voilà.
Alors, le Hamas est assez embêté. Alors, il a fait un communiqué disant qu'il prenait acte de la situation. Que faire d'autre, hein ? Mais il se rend bien compte que au moment où Israël est totalement libre de ses moyens au Liban, où il a laissé la partie se fermer, totalement libre de ses activités en Syrie, effectivement, l'armée israélienne peut, sans souci, mettre le maximum d'hommes pour achever Gaza. C'est pas du tout impossible. Ce qui était difficile il y a encore 15 jours, 3 semaines, parce que les actions du Hezbollah, les actions des Yéménites, je veux dire les actions, les drones, les tirs, faisaient que l'armée israélienne était obligée de se battre sur plusieurs fronts à la fois. Là, maintenant, elle ne se bat pas. En Syrie, elle ne se bat pas. Il n'y a personne en face.
Hein.
Donc, effectivement, tout l'effort militaire, toute la violence militaire d'Israël ne peut s'appliquer à partir d'aujourd'hui que sur les Gazaouis.
Non. Là, c'est
alors,
fini.
Reste l'inconnu. Il reste les inconnus d'une résistance éventuelle irakienne, qui n'est pas très très solide, et puis la résistance yéménite. Voilà. La résistance yéménite, on verra,
là aussi,
mais ils peuvent beaucoup souffrir.
C'est un pays pauvre,
ils ont quand même l'Arabie Saoudite qui ne les aime pas, ils ont le porte-avions Charles de Gaulle qui va arriver le long de leur côte. N'oubliez pas le porte-avions Charles de Gaulle, qui a remplacé le porte-avions Abraham Lincoln qui était dans la mer Rouge et qui est parti. Hein. Et donc la France a son rôle aussi dans la destruction des Yéménites et de ce front-là de la résistance. Ne pas l'oublier. Hein. Parce que ça fait partie des...
Moi, j'ai l'impression que les Yéménites, ils vont le faire payer. Hein. Ça, c'est sûr, c'est clair. Parce que bon...
À voir. Donc voilà en gros la situation autour du Moyen-Orient. Et puis il faut quand même revenir à ce qui s'est passé le 9 à Paris, capitale de l'Occident, voulu comme tel, autour de la cérémonie à Notre-Dame de Paris. Il y a beaucoup de choses à en dire. D'une part, on savait que Trump était invité. Alors qu'est-ce que ça veut dire inviter Trump ? Trump, il sera président que dans 40 jours. Inviter Trump, ça voulait dire lui faire le baiser de la soumission. C'est-à-dire dire, parce que Trump le sait, j'ai roulé pour Biden aussi longtemps que j'ai pu et je continue encore aujourd'hui à rouler pour Biden et pour sa politique et pour la politique d'Israël. Mais vous êtes le patron, je me couche à vos pieds, je suis à vos ordres d'ores et déjà.
Ouais,
c'était
sûr.
Ça. Le sens de l'invitation. Il faut bien le comprendre pour ce que c'est. Je suis couché, je vous embrasse les pieds. La République française embrasse les pieds de Donald Trump. Bon, c'est ça, c'est très très fort. Et en plus, alors surprise, cerise sur le gâteau, cerise amère, Zelensky invité à l'Élysée, Zelensky... cette espèce de... enfin bon, peu importe, invité à l'Élysée. Donc il y a eu un entretien au sommet entre Trump, Zelensky et Macron pour savoir ce qu'on allait faire après des Palestiniens, de Gaza, etc. etc. Se sont mis d'accord. C'est-à-dire qu'on a là la formation d'une direction, c'est Trump en fait le patron, d'une direction du fascisme international. J'ai le droit de tuer qui je veux, où je veux, quand je veux. C'est ça le fascisme. Alors, je veux dire, on nous fait... Enfin, il faut bien que nous comprenions que nous ne sommes pas face à Marine Le Pen d'un côté, je ne sais quel leader hollandais de l'autre, etc. Non, non, le fascisme, il est à Washington, hein, puisque le fascisme, c'est un régime non démocratique qui permet de dire « moi, je veux, et militairement, je vous impose ce que je veux, point ». Et si vous n'êtes pas d'accord, vous mourrez. C'est ça, le fascisme. Bon. Mais le fascisme, il est installé à Washington, et donc il a été organisé par consensus entre Macron, Zelensky, et Zelensky qui sont deux serviteurs du projet américain. Macron le savait très bien, et Zelensky, c'est patent. Il a été installé comme ça à l'Élysée le samedi 9, avant la cérémonie à Notre-Dame. La cérémonie à Notre-Dame, ça valait aussi la peine de la regarder. Parce que quand Zelensky est entré dans Notre-Dame, il a été ovationné. Écoutez bien, il a été ovationné par la foule, enfin la foule,
par tous les gens, ceux qui sont
par tous les invités qui étaient là. C'est ça que ça veut dire. Bon, ça veut dire que la France, elle n'est pas en très très bon état de ce point de vue-là.
Ben, le colonialisme n'est jamais terminé.
Exactement, le colonialisme n'est jamais terminé. Ah. Bon. Donc c'est ça qui s'est passé le 9. C'est très intéressant, c'est important qu'on se rende compte de ça, c'est-à-dire allégeance, Macron est au pied, est un serviteur fidèle de l'Empire américain, il a été serviteur de Biden, il sera serviteur de Trump, il sera serviteur de n'importe qui d'autre, c'est un laquais, bon, il reste un laquais, et il veut que les Français soient des laquais. Alors ça, il n'y a encore pas trop de résistance du côté français pour ça, parce qu'il y a beaucoup de Français qui ne veulent pas voir cette réalité qui est humiliante. Bien sûr qu'elle est humiliante. On est considéré comme juste bon à baiser les pieds du patron. Effectivement, c'est assez insultant pour chaque citoyen, pour vous, pour moi, pour Roselyne, pour Habib et pour, je pense, tous les gens qui écoutent Radio Galère. Mais c'est là où nous en sommes. Et je dois dire... et je critique personne, mais qu'au niveau des forces politiques françaises actuelles, il n'y a pas trop de gens qui portent ce sentiment-là. Pas trop. Et c'est dommage, parce qu'il faudra bien à un moment donné que ça passe par là. Hein. Alors, je rappelle quand même, alors il ne faut pas être grandiloquent excessif, quand le 18 juin, De Gaulle a fait son appel, il n'est pas arrivé des foules s'inscrire le 19 juin et le 20 juin dans les bureaux d'embauche à Londres. Bon, donc il y a eu quelques gens qui sont décidés. Il y avait déjà les communistes parce qu'ils étaient interdits depuis un an. Bon, mais il n'y avait pas grand monde. Et donc aujourd'hui, on peut penser, c'est un peu comme ça que j'analyse la situation française, que nous sommes... vous, moi, quelques autres et tout, dans la situation de ceux qui disent il faudra un peu se débarrasser de ce régime-là, mais on n'est pas très nombreux. On n'a que notre honnêteté pour nous, notre respect d'autrui pour nous, notre volonté de donner la santé à tout le monde, à manger à tout le monde et tout, de tuer personne pour faire avancer nos intérêts. C'est à la fois beaucoup, parce que c'est un projet de vie, et pas beaucoup sur le terrain. Parce que c'est un rapport, on est aussi dans un rapport de force. Bon. Roselyne,
Bernard,
prends courage.
Juste par rapport à l'inauguration de Notre-Dame de Paris,
oui.
J'étais très étonnée de voir si peu de chefs d'État africains. J'ai juste reconnu Sassou Nguesso.
Il y avait Sassou et
Faure Gnassingbé.
C'est tout. Oui. C'est tout. Voilà. Voilà. Donc le Togo et le Congo. C'est tout. Ouais, ouais. Non, les autres ne sont pas venus. Je pense que de ce point de vue-là, enfin, si on en parle, c'est bien d'en parler, parce que je pense que les autres. D'abord les trois de l'AES, puis maintenant le Tchad.
Oui, non, mais ça ne m'étonne pas. Mais voilà. Il aurait pu y avoir Ouattara ou Patrice Talon.
Non, parce que je pense qu'ils sont incertains. Ils n'ont pas voulu trop se montrer là au milieu, parce qu'ils sentent que la situation est difficile pour eux aussi, certainement. Donc il y a ceux qui se sentent absolument à peu près tranquilles, le Togolais. Non, mais effectivement, le Béninois, il n'est pas venu. Ils sont... En train de prendre leur distance, ils sont un peu à l'image du Sénégal qui dit que je n'ai pas encore coupé les ponts, mais je me prépare. Je me donne les moyens de couper les ponts. Bon, je pense que c'est ça. Mais ça, c'est très intéressant, ton observation. Ils n'étaient que deux, effectivement, et pas les deux plus intéressants, on les connaît. Hein, mais la distance, elle est prise. Et la force de cette distance, je le ressens comme ça, c'est que les responsables de ces pays africains aujourd'hui disent, de toute façon, nous, on trace notre chemin, on ne regarde pas ce qu'on pense à Paris, on ne regarde pas les misères qu'on veut nous faire, on les connaît toutes, d'ailleurs, les misères, hein, on sait faire, on sait même s'en protéger à l'occasion, on avance sur notre projet de vie et d'avenir à nous. C'est ça qui compte. Et on a la population qui nous suit, parce que la population, elle dit, j'ai des gens de mon pays qui décident de l'avenir de mon pays, et c'est ça qui importe. C'est tant mieux de ce côté-là. Je regarde l'heure. Oui. Alors, ce tour fait, ça va évoluer très très vite sur le sol syrien, mais il faut bien comprendre que d'une part, les États-Unis sont là. bombardent eux aussi dans le nord. Ils vont bombarder probablement les Kurdes après les avoir entretenus. Bon, ça, hélas, pour les Kurdes. Bon. Que Israël a beaucoup avancé, a beaucoup cassé, et donc Israël pourra à un moment dire, enfin, elle se satisfera d'un pouvoir qui lui obéira. Alors j'attends, et on va voir dans les jours qui viennent, le face-à-face entre les djihadistes si brillants et si bien formés et l'armée israélienne. Je ne sais pas ce qui va se passer à ce moment-là.
Non, il a dit que sur le plan international, tous les pays se sont mes amis. Et quand il dit ça, y compris Israël.
Y compris Israël.
Oui, c'est clair.
Oui, c'est ça. Donc à mon avis, Israël ne fera pas la faute de mettre un gouvernement à sa solde. Donc à Damas, mais aura quelqu'un qui sera sous contrôle, sous surveillance étroite.
Moi, je pense que c'est l'Amérique qui va contrôler tout ça.
Et puis comme ce monsieur-là, monsieur Jolani, il n'aura pas d'aviation de guerre, il n'aura pas d'arme antiaérienne, chaque fois qu'il fera un pas de travers, il se prendra une bombe sur la figure, donc il n'ira pas bien.
Il va lui donner quelques dollars de mendicité.
En plus, il faut savoir... Alors, je redis ça aussi, il faut savoir que pendant que la majorité des Syriens manquaient d'eau, manquaient de gaz, manquaient de nourriture, vivaient d'expédients au jour le jour et tout, à Idlib, dans le secteur turco-américain, on avait tout ce qu'il fallait tout le temps. Il n'y a jamais eu une coupure d'électricité, on n'a jamais manqué d'eau, on n'a jamais manqué de nourriture. Et on touchait des salaires réguliers en dollars. Hein. C'était ça aussi. Donc on avait nourri les États-Unis, l'Empire avait nourri les combattants.
Alors il y a des combattants français, d'après ce que j'ai entendu.
Voilà.
Le HMS ou un truc comme ça, de combat soi-disant, ils ont aidé les djihadistes. La France est fière de ça.
Voilà. Alors, parlons de la France aussi, parce qu'il y avait alors donc l'armée américaine était dans le secteur où elle volait où l'armée aidait à voler le pétrole syrien avec la société Conoco. Je vous rappelle ce que Trump avait dit pendant son mandat, en disant il y a une société américaine qui exploite le pétrole à cet endroit. Je regarde pas si elle a le droit, si elle est en règle et tout. Je défends la société américaine, c'est tout. Et je mets mes soldats autour. Ce qu'il a fait, bon.
C'est des voleurs.
Voilà, c'est des voleurs, c'est du brigandage.
Bon.
Et puis, les États-Unis avaient une deuxième base dans le sud-est du territoire syrien qui s'appelait Al-Tanf. Ouais. Alors ça, c'était un morceau du territoire syrien où les États-Unis avaient une base, ils l'ont toujours, qui était donc frontalière avec la Jordanie, et par où passait tout l'armement nécessaire, toutes les munitions, la nourriture et pour nourrir ces soldats. Ouais. Et il faut savoir, j'insiste là-dessus, auditeurs français, les soldats français dont la base officielle est à Abu Dhabi, vous savez, depuis Sarkozy, la France a une base à Abu Dhabi. Bon, les soldats français qui devaient intervenir sur le terrain syrien, on vous disait pas pour faire quoi, parce que c'était des forces spéciales, des opérations extraordinaires et tout, ils étaient installés à Al-Tanf, dans la base américaine d'Al-Tanf, sur le sol syrien. Ça, on vous en a pas parlé. Hein, et ça existe, c'est la vérité, le ministère de la Défense, il le sait. Et il y a probablement même des soldats français qui sont morts dans ce genre d'opération. À propos de morts en opération, il faut savoir qu'aujourd'hui, les morts... que ce soit des morts en Israël ou que ce soit des morts sur le champ de bataille syrien, sont considérés comme morts ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapatriement de cercueil de morts en Israël à cause d'un bombardement du Hezbollah. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non. On trouve... Alors, il y a des gens qui se sont amusés, y compris des familles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mon mari, il est mort dans un voyage qu'il faisait en Malaisie. Non, ce monsieur est mort en Palestine, en Israël plutôt. Il a été victime d'un tir de missile du Hezbollah, mais il ne faut surtout pas le dire. Donc, on va faire un faux certificat de décès. Avec en plus des questions sur la pension pour les veuves, etc. On est dans un niveau de sordide, alors qu'ils claquent des centaines de milliards pour arriver à leur fin politique, on est dans le sordide. C'est-à-dire, je vais être trop caricatural, mais la fin d'une civilisation, quand on en est là, on n'a plus de projet de civilisation, on n'a plus rien à dire au reste de l'humanité. Bon. J'allais aborder un dernier sujet pour vous annoncer, d'une part que demain soir, je vais autour de la Tanzanie, pays que vous ne connaissez pas et que personne ne connaît parce qu'on n'en parle pas. Essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que l'Afrique orientale. tous ces pays dont on ne parle pas ou pas très souvent, et surtout pas de la Tanzanie, parce que c'est un pays de 70 millions d'habitants, où il ne se passerait sans doute rien. Alors, il a l'avantage, j'allais dire extrême avantage, mais je développerai demain, il a ni mine de cuivre, ni pétrole, ni gaz et tout, et donc les rapaces ne s'intéressent pas à lui. Donc il n'a pas les coyotes sur le dos et les vautours. C'est triste à dire. Donc, alors par contre, ceux qui ont ce genre de ressources, alors là, on les laisse jamais. Et ça me permet de finir sur le Mozambique. Cas extraordinaire, mais peu connu, enfin peu relaté, parce que connu par ceux qui veulent. Le Mozambique a été, comme les colonies ex-portugaises, a été libéré par une armée de libération nationale, comme l'Angola de l'autre côté, qui s'appelait le Frelimo, le Front de Libération du Mozambique. Bon. Avec une direction qui a pris le pouvoir à la suite de cette lutte de libération après 1974 et tout. Et puis, le Mozambique a été, comme il pouvait, sans beaucoup de ressources et tout. Et donc, les Sud-Africains, du temps où l'apartheid n'était pas fini, ont dit « mais ça nous gêne d'avoir un régime qui n'est pas dans nos amis, qui est contre l'apartheid et qui éventuellement va aider les combattants de l'ANC et du Parti communiste sud-africain. » Et donc, on va commencer à lui faire des ennemis. L'Afrique du Sud blanche a fabriqué un opposant qui s'appelle la RENAMO. Donc un opposant politique sur le terrain pour essayer de faire perdre le pouvoir au front de libération du Mozambique. Alors ils sont installés, ça n'a pas donné grand-chose, et donc ce pays vivotait jusqu'à ce que on y trouve du gaz naturel dans des quantités énormes. Quantités énormes dans la partie nord du territoire, en partie sous-marin, en partie pas sous-marin. Se sont jetés sur la proie. Écoutez bien les noms. Total, l'ENI, l'entreprise nationale italienne des hydrocarbures, et Exxon. Hein, donc, ils étaient trois sur l'affaire. Ils sont toujours trois sur l'affaire. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Ça devrait se passer normalement. Mais le gouvernement du Mozambique dit « Oui, mais attendez, vous êtes chez moi, mais vous devez quand même participer, me verser ce qu'il faut comme indemnité, comme participation. » Donc, il fixe les prix. Alors ça dérange, parce que si on peut piller le gaz angolais, qu'on soit Total, Eni ou Exxon, ben, c'est encore mieux que si on doit payer une redevance à l'État qui en est propriétaire. Et donc, qu'est-ce qui surgit à ce moment-là des réflexions de ces messieurs ? Une insurrection islamiste. Comme par hasard, il n'y a pas de musulmans au Mozambique, hein, mais on les fait venir, c'est pas grave, ça voyage les insurgés islamiques. Hein. Bon. Et on commence à leur fabriquer une insurrection islamiste. Bon. Quelle est la riposte à cette insurrection islamiste ? L'Union européenne, écoutez bien, l'Union européenne, pourquoi l'Union européenne ? Parce que d'une part, il y a le Portugal, l'ancien colonisateur, il y a la France, Total, il y a l'Italie, l'ENI. Hein. Donc l'Union européenne, c'est quand même d'abord mes entreprises à moi, capitaliste européen, qui risquent de perdre ce marché, cette source de gaz de très très grande qualité, donc les recettes qui vont avec. L'Union européenne forme une armée mozambicaine pour lutter. Alors on envoie des centaines de formateurs, etc. Je précise, sur un budget de la Commission européenne qui n'existe pas statutairement à la Commission européenne, dans son budget, il n'y a pas de département d'aide militaire. Mais ce n'est pas grave, on en a caché un dans un bureau à Bruxelles et l'Union européenne finance des actions militaires alors qu'elle n'a pas le droit de le faire. C'est ça la Commission de Mme von der Leyen. Et donc l'Union européenne a fabriqué donc, des gens censés lutter contre ces milices islamistes. Alors, ils ont quand même pas mal avancé dans ce travail, puisque apparemment, on en est à un moment clé où il semble bien que cette milice islamiste n'ait pas réussi à percer. Mais la dernière tentative qui a eu lieu donc, cet automne, c'était de dire que le Frelimo, qui est toujours au pouvoir, n'avait pas gagné les élections présidentielles qui allaient amener un nouveau président pour 5 ans à la tête du Mozambique, donc un président quand même avec une veine anticolonialiste, indépendantiste, et on lui avait fabriqué un opposant, donc de la RENAMO ancienne. Alors on en était à la situation, ça fait rire, parce que je ne vais pas parler aujourd'hui de la Roumanie, vous avez suivi la comédie roumanienne. On a fabriqué des résultats, des présidentielles, où d'un côté, le Frelimo disait qu'il avait eu 70% des voix et 175 députés sur 200, et les autres disaient qu'ils avaient eu, eux, 53% des voix, et ils disaient qu'ils avaient raison. Et bien entendu, tout l'Occident disait, mais c'est eux qui ont gagné, alors voulant que ce soit eux qui gagnent. Bon, alors ça, c'est... Ça ne s'est pas terminé en combat, on ne s'est pas battu dans les rues et tout. Apparemment, la tentative de faire imposer un perdant comme vainqueur d'élection, mais on connaît ça en Côte d'Ivoire et tout, bon, n'a pas marché. Et d'après les dernières nouvelles que j'ai pu consulter ces derniers jours, les sociétés pétrolières, donc les trois, vont commencer très sérieusement leur exploitation, sont rassurés, la paix va revenir et on va s'accommoder de ce régime qui n'est quand même pas un régime très très pro-colonialiste, mais qui a besoin aussi de vivre et de tirer profit des ressources naturelles qui sont sur son sol. Voilà, très grossièrement.
Et la Roumanie, il y a un problème aussi.
Alors, la Roumanie, c'est un chef-d'œuvre. Alors, on en dit quelques mots. Tant pis, je vais dépasser d'une minute. Ouais. On en dit quelques mots. Vous savez que donc il y avait eu un premier tour d'élection présidentielle pour la Roumanie, avec un premier et un numéro 2 surprise qu'on n'attendait pas. Le premier s'appelait M. Calin Georgiou. Alors on avait dit anti-russe, extrême droite, etc. Le problème, c'était surtout qu'il ne voulait pas que la guerre en Ukraine continue. Il voulait que ça se calme. Il ne voulait surtout pas que la Roumanie soit impliquée. La Roumanie est impliquée extraordinairement fortement, puisqu'elle est la base, une des grosses bases de l'OTAN, gérée par l'armée française pour donner un soutien à l'Ukraine de Zelensky. Et donc, le premier tour a ses résultats. Le premier, Calin Georgescu, avait 22% des voix. Et la seconde, qui était un peu inattendue, qui n'était pas au parti, d'un parti au pouvoir, avait 18%. Et donc, il y avait de bonnes chances que ce soit l'un des deux qui soit président au deuxième tour. Le surlendemain du dimanche des élections, la commission électorale indépendante proclame et valide les résultats. Et trois jours après, elle fait l'inverse.
Voilà.
Alors, les motifs sont grandiloquents parce qu'il n'a même pas été, comme c'est d'habitude, dire élection truquée, bourrage dur, rien du tout. C'est-à-dire, ce monsieur a eu trop de propagande en sa faveur. Comme si les autres avaient rien fait. On a accusé TikTok. Parce que, évidemment, comme il n'avait pas un parti derrière lui, il a utilisé les moyens du bord, comme le fait Soros et en permanence, comme le font beaucoup d'autres. Mais il n'avait que ça. Il n'avait pas la presse, il n'avait pas la télévision officielle. Il a utilisé les réseaux, effectivement. Ah ben on dit, ça ne se fait pas. Si vous utilisez les réseaux, vous n'avez pas le droit d'aller au pouvoir. Bon. Et donc, le premier tour a été annulé. Et on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura de nouvelles élections présidentielles en Roumanie. Alors, bravo les démocrates. Continuez comme ça. On rira de vous jusqu'à la dernière minute et jusqu'à la dernière seconde. Ouais. Voilà. À demain pour parler de la Tanzanie et de l'Afrique orientale. Et à mardi prochain pour d'autres aventures de l'Empire. Merci Roselyne. Merci Habib.
Merci à tous.